avec Anne-Marie Almoster-Rodriguez dans quelques minutes, puisqu'il recevait cet après-midi un secrétaire d'État. Donc, je crois que la réunion s'achevait à 16h30, donc il ne devrait pas tarder. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire l'appel. Alors, il y a d'autres personnes qui arrivent. Donc, Pierre Allard va arriver. Elle est là, Agnès, c'est bon. Donc, Pierre Allard va arriver. Anne-Marie Almoster-Rodriguez également. Johan Balestra. Christine Ballet. Bon. Excusez, pas d'infos. Hervé Baudet. Laurence Beige. Laetitia Calandro. Mireille Chabot. Fabrice Chaminade, je pense qu'ils vont arriver avec Anne-Marie, sûrement, peut-être avec. Non, ok. Anne-Sophie Chazelle, je l'ai vue. Pascal Cluzot est là aussi. Lucien Quendo, Édouard Coquillot, Nadège Coucault, Eliane Crossi. Non, pour l'instant. Annie Dardillac, elle est excusée, représentée par Christian Vigneron, Frédéric d'Auvergne, Bernadette Desroches, Jean Duchambon, oui, il a sa voiture, donc il arrive, Alain Favreau, Alex Gerbeau, Thierry Gouraud, il va arriver, Jean-Pierre Granet, Thierry Granet, Fabien Abrias, moi-même, Vanessa Lanette Michaud, Claudine Latière, excusez, Didier Lequieff, Isabelle Milor, Joël Pichon est excusé à donner procuration à Didier Lequieff. Vola, Racco Thomas et Fa, pas là, Benoît Sadri et Raymond Bouzelot. Je vous propose Laurent Chazelas, mais justement, j'allais t'appeler. Puisque si on respecte l'ordre, je vous propose Laurent Chazelas comme secrétaire de séance. Voilà. La prochaine fois, ce sera Anne-Sophie Chazelle dans l'ordre, mais voilà. Bien, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle d'une part donc le débat d'orientation budgétaire, la présentation effectivement des finances et perspectives pour l'année 2021. Et nous avons effectivement d'autres délibérations à prendre dans un deuxième temps. Je voulais vous donner les dates des prochains conseils communautaires. Le 8 avril 2021. Je vais le noter en même temps. Donc, 8 avril 2021. L'heure, pour l'instant, n'est pas définie. J'avais noté, moi. Le 3 juin. Et le 1er juillet. C'est bon. Vous avez été, par ailleurs, destinataire du procès-verbal du Conseil communautaire du 11 février 2021. Donc, dernier Conseil communautaire. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ? Je le soumets donc aux voix. Qui est contre, qui s'abstient. Donc il est adopté à l'unanimité, comme aurait dit Joël Ratier. Je vous en remercie. Donc l'ordre du jour appelle donc le débat d'orientation budgétaire. Donc vous disposez de ce document, voilà, de ce PowerPoint, donc sur qui a été présenté à la Commission des finances la semaine dernière. Donc dans ce document, vous avez d'une part les finances locales et les perspectives en termes de taxes et autres pour l'année 2021 et les données propres donc à la communauté de communes. On verra bien évidemment les comptes administratifs, les budgets prévisionnels, l'état des restes à réaliser. Voilà, tel qu'on en est actuellement. Donc je vais passer la parole tout de suite, si vous en êtes d'accord, à Stéphanie Fourgeau. On va commencer la présentation et puis... Le président et la deuxième vice-présidente vont nous rejoindre dans quelques minutes.
Je vous propose, je vous... vous propose de résumer peut-être la première partie concernant la loi de finances, sauf si vous avez des questions et on peut les aborder. Simplement, il y a trois grandes lignes à retenir. La réforme de la taxe d'habitation qui du coup aura un impact sur votre levier fiscal à partir de cette année. La diminution des bases des locaux industriels, donc où il y a une réduction de moitié des taux appliqués pour le calcul des valeurs locatives des établissements industriels, ce qui fait que sur notre territoire, ça nous fait à peu près 30% de moins sur le produit que l'on attendait les autres années, donc c'est pas négligeable. Et le dernier point, mais concerne un petit peu plus les communes, puisque la Comcom n'était pas compétente, mais ça peut être intéressant pour vos budgets communaux. La centralisation de la taxe sur les consommations finales d'électricité, qui vous fait là aussi un levier en moins en termes de perception de fiscalité. Est-ce que vous souhaitez qu'on rentre un petit peu plus dans le détail sur la loi de finances, ou est-ce qu'on rentre directement sur les données propres à la communauté de communes ?
Moi, je pense qu'on peut rentrer sur les données propres à la communauté de communes. C'est ce qui nous intéresse directement.
Donc, alors, on va passer directement à la page 30.
Page 30.
Concernant les charges de structure. Donc là, cette année, vous avez l'ensemble des dettes de l'ensemble des budgets, aussi bien budget principal que budget annexe, pour vous faire un état factuel en fait de l'endettement de la communauté de communes. Donc on a un encours total à 3 410 000. Quand je vous parle de l'encours total, c'est que sur le budget principal, puisque sur le budget, sur les budgets annexes, comme ils s'équilibrent avec les redevances et que ce sont pour la plupart des SPIC, les ratios pouvant montrer la santé du territoire ne prennent pas en compte en fait les dettes des budgets annexes. Donc ça nous fait, sur les trois ratios qui nous intéressent, un encours de la dette à 0,19, donc qui est tout à fait confortable, puisqu'on dit qu'il y a un endettement qui est considéré comme déjà important à partir de 1,8. Donc ça, c'est votre encours qui est ramené sur les produits de fonctionnement. La marge d'autofinancement courant, donc là, c'est on rajoute en fait entre les charges de fonctionnement et le capital des emprunts, on essaye de faire le lien avec les produits de fonctionnement. Donc là, on voit qu'on est à 0,86. On dit que c'est normal jusqu'à 1, donc c'est un très bon résultat. Mais malgré tout, ça peut nous alerter un petit peu, parce que ce qui montre le fait qu'on soit un petit peu plus près de 1, c'est que les charges et les produits, du coup, ne dégagent pas assez de fonctionnement, enfin assez d'excédent, pardon, pour vous permettre d'être très confortable par rapport au capital des emprunts. La capacité d'aide de désendettement est tout à fait correcte, donc c'est 1,04. Donc là, il n'y a aucune inquiétude à avoir par rapport à la dette que nous avons, qui est quand même très faible sur le territoire communautaire. Sur la page 31, ce que l'on vous met en avant, ce sont les charges courantes de fonctionnement avec les frais de personnel. Donc sur 2020, on avait 4 511 362 euros pour le budget principal, 895 000 euros pour le budget annexe des ordures ménagères, 277 000 pour le budget de l'eau et 362 000 pour le budget de l'assainissement. On vous note simplement qu'un équivalent temps plein est jusque-là considéré aux alentours de 1554 heures. Vous avez le détail du budget général par rapport aux agents que nous avons en charge sur l'exercice. Au titre de l'exercice 2021, sur la page 32, il n'y a aucun changement important sur le budget principal. On a juste intégré en fait le GVT pour les promotions d'échelons habituels des agents. Donc, ce qui nous fait des frais de personnel évalués aux alentours de 4 597 000 euros pour le budget principal pour l'année 2021. 914 000 euros pour les ordures ménagères, 280 000 pour l'eau, 424 000 pour l'assainissement. Sur les budgets eau et assainissement, là, on a toujours la problématique des recrutements que l'on aurait dû faire pour partie sur l'année 2020, mais qui n'ont pu être faits faute de trouver des compétences nécessaires au bon fonctionnement du service et à la qualité du service que nous avons à l'heure actuelle. Donc, on poursuit le recrutement. On a déjà des contractuels qui ont été embauchés. Donc, trois agents techniques et un agent administratif supplémentaire pour pouvoir assurer le fonctionnement correct du service. Vous avez le détail aussi par filière des budgets annexes, donc ordures ménagères, eau et assainissement. On vous a mis le prévisionnel article par article, mais c'était juste à titre d'information. C'est peut-être pas nécessaire qu'on rentre dans le détail ce soir. Sur les charges à caractère général, donc le 011 en page 35, l'évolution entre 2020 et 2021, elle débouche en fait sur un chiffrage d'1 885 000 euros. Donc on peut dire que l'ensemble des demandes qui avaient été faites dans le cadre de la lettre de cadrage en fin d'année dernière, ont été largement bien respectées. Ce que nous demandons au service pour les remonter et donc du coup pour qu'ils puissent travailler avec vous dans les commissions, c'est de maintenir bien sûr les charges à caractère général pour pouvoir tout simplement vous aider à avoir un excédent supplémentaire et pour pouvoir contenir en fait les charges au mieux pour ce chapitre-là. Donc c'est aussi pour ça que nous faisons des propositions à 1 885 000. Ce que nous avons essayé de faire, puisqu'avec l'année 2020, entre la crise sanitaire et la particularité en fait, au niveau des services, du fonctionnement des services, on est reparti en fait, sur une proposition qui était un petit peu au-dessus de réaliser 2019. Donc on espère ne pas trop se tromper dans ce qui va nous être imposé, notamment dans le cadre de la gestion de la crise. Mais voilà, c'est du prévisionnel, on essaye de le faire au plus juste. Donc là, c'est surtout, bien sûr, les achats de masques, des gels, des produits d'entretien, puisque là, on a dû avoir des stocks plus importants. On a aussi une grosse partie concernant la maintenance informatique qui va être prise sur ce chapitre-là, que l'on n'avait pas jusqu'ici, puisqu'on va changer les logiciels comptabilité et ressources humaines, donc pour pouvoir mieux travailler et avoir des analyses un petit peu plus précises que ce que les logiciels jusqu'à présent nous proposaient. Et on a aussi une assistance à maîtrise d'ouvrage pour le site internet et les marchés d'assurance, parce que notamment pour les marchés d'assurance, c'est très compliqué d'avoir les compétences en interne pour pouvoir lire correctement les petits astérix qui sont en fond de contrat. Donc on avait besoin de se faire appuyer d'une expertise dans le domaine. Ensuite, au compte 65, les subventions, on est sur 588 000 euros. Alors bien sûr, les trois plus importantes sont l'OTI pour 345 000 euros. Elle est un petit peu plus élevée que les autres années, tout simplement parce que nous avons inscrit les frais concernant notes. 48 000 euros, je crois que c'est de l'ordre de 12 000 ou 16 000 euros. 48 000 euros pour le CIRIR et 41 600 euros pour la pépinière. Donc une fois où on a enlevé ces trois subventions, c'est des petites subventions qui sont allouées aux associations. Les subventions à LSH, ça c'est le pacte financier que nous avons depuis plusieurs années pour toutes les communes qui ont en gestion les ALSH. Donc ça représente à peu près 20 000 euros par établissement subventionné. Donc ça nous fait un total de 100 000 euros. Les subventions à l'EPCC pour une hauteur de 323 000 euros. Et après, toutes les adhésions, au syndicat des eaux, Dorsal et le SCOT, pour environ 131 000 euros au global. En pacte et dotation, nous avons les dotations de compensation à hauteur de 4 756 000 euros. La part communautaire du FPIC, vous savez que depuis l'année dernière, le FPIC est entièrement payé par la communauté de communes et les communes reversent ce qu'elles doivent dans le cadre des transferts de charges, mais sur un montant figé depuis 2018. C'est là où la solidarité vient jouer après sur les années qui suivent. Et le pacte de solidarité à hauteur de 136 000 euros, ce qui nous fait un montant total de charges de fonctionnement à 15 552 000 euros. Est-ce que vous avez des questions sur les dépenses ?
Juste, si vous permettez que je fasse une remarque. Bon, vous voyez qu'il y a une volonté effectivement de maîtriser les dépenses, hein, puisqu'on s'est basé sur le réalisé de 2020. Une volonté de maîtriser les dépenses parce que vous pourrez le voir dans le résultat du compte administratif, on a aussi moins de recettes. Et notamment, je prends l'exemple du centre aquaré-créatif par exemple, et d'autres effectivement nous procurent beaucoup moins de recettes. Donc on est obligé effectivement de compenser, sachant que vous allez voir que le budget que l'on va vous proposer, budget tel qu'il est, il a commencé à être élaboré, est fait à fiscalité constante. Donc c'est-à-dire sans augmentation d'impôts, sachant que les bases devraient, d'après ce que Stéphanie nous disait l'autre jour, 0,2, je crois que c'est ça. Les bases devraient varier que de 0,2. Donc, dans le contexte actuel, on est en train de préparer un budget sans augmentation d'impôts de notre part. Mettons les bases 0,2. Hein, voilà. Après, nous, on ne maîtrise pas les bases, on maîtrise que les taux. Donc, voilà, c'est à mon avis la meilleure des solutions dans le contexte actuel.
Donc, sur les ressources de fonctionnement, on a essayé d'évaluer au mieux en fonction des notifications qui nous ont été adressées. Donc, 1 500 000 euros de DGF, 150 000 euros de dotation d'intercommunalité et 890 000 euros de DCRTP. On n'est plus éligible depuis maintenant 2 ans à la DGF bonifiée. Sur les ressources fiscales, donc là, la grande nouveauté avec la réforme de la taxe d'habitation. Donc, les estimations sont faites effectivement sur une base de 6 685 000 euros et somme qui ne comprend plus en fait la TH et qui prend en compte la diminution de 34% des bases de CFE. La TVA pour compensation de TH à 2 260 000 euros. Les entreprises de réseau, ça ne bouge pas, 410 000 euros. Les attributions de compensation négatives pour 95 000 euros. Et après, tout ce qui est TASCOM, FNGIR n'ont pas évolué. La taxe de séjour, on la maintient à 10 000 euros, mais là aussi, avec beaucoup d'incertitudes. La taxe GEMAPI, c'est une nouveauté cette année, 136 000 euros. Et le FPIC, vous savez qu'on est à la fois contributeur et on reçoit de l'argent, on a 30 000 euros. Vous pouvez vous en satisfaire. ensuite, pour les produits des services...
Juste une parenthèse par rapport au FPIC. Comme vous le savez précédemment, la communauté de communes payait sa part au FPIC et puis les communes payaient leur part au FPIC. Bon, et devant l'augmentation constante du fonds de péréquation intercommunal, que l'on déplore malheureusement depuis des années, on a souhaité effectivement sanctuariser un montant, une dotation négative pour les communes qui correspondait au FPIC de 2018. Et le surplus est pris en charge donc par la communauté de communes. Donc si le FPIC augmente, ce surplus, effectivement, lié à cette augmentation, est pris en charge par la communauté de communes, ce qui fait que les dotations de compensation négatives, les AC négatives de la commune, ne bougent pas. Voilà, je voulais apporter cette précision pour les nouveaux, enfin il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs, beaucoup d'anciens élus, donc ils savent, mais quelques hommes. Oui, je sais, il y en a quelques hommes, voilà.
Pour les produits des services, donc, on a essayé d'estimer sur les bases des recettes perçues en 2020, sachant que là aussi, on a quelques difficultés. On évalue à 419 000 euros sur le budget principal, donc ça concerne les redevances concernant le conservatoire de musique, le centre aqua, la LSH, l'aire d'accueil et les locations de gîtes. Bien sûr, les variations seront forcément importantes si la crise sanitaire se poursuit. 3 032 000 euros sur le service ordures ménagères, 1 851 000 euros sur le service de l'eau et 1 466 000 euros sur le service de l'assainissement. Donc on a essayé d'être au plus juste avec sans doute des variations en cours d'exercice que l'on ne maîtrise pas pour le moment.
Monsieur Granet demande la parole. Thierry Granet.
Oui, merci Président. Oui, c'était vraiment juste une réflexion suite à la précision que Philippe a apportée tout à l'heure concernant le fonds PIC. Moi, je voudrais quand même souligner, eu égard à la façon de faire de la communauté de communes vis-à-vis des communes, je veux souligner là l'effort de solidarité qui est mené par la communauté de communes à l'égard de l'ensemble des communes. Et donc je salue, moi, cet effort de solidarité qui est fait par la collectivité tout entière à l'égard de ces communes. Et donc voilà, je voulais quand même noter ça et appuyer là-dessus parce que les collectivités territoriales sont grandement mises en danger par les politiques de l'État et ce, depuis plusieurs années. On a 30 000 euros de retour sur le fonds PIC, on paye 1 200 000, j'aime préférer que ce soit l'inverse, mais bon, malheureusement, c'est ainsi. Voilà, je voulais quand même souligner fortement ce soir et saluer la solidarité qui s'opère sur ce territoire. Merci.
Merci, Thierry. On peut poursuivre ? Personne ? Pas d'intervention ? Donc, je crois que le président devrait pas tarder à arriver. Vas-y, Stéphanie, continue.
Donc sur la fiscalité cette année, on est désolé, on n'a pas pu vous apporter les tableaux avec les précisions qu'on vous apportait les autres années avec l'évolution des bases et des produits, tout simplement parce que nous n'avons aucune communication précise de la part des services de l'État. Alors, pourtant, ils nous ont apporté un certain nombre d'informations, ce n'est pas de leur fait non plus. Donc, simplement, ce qu'on peut vous indiquer, c'est qu'il y a une compensation, bien sûr, par une part de TVA de la perte des recettes de TH, qu'on devrait retrouver le produit de la TH normalement à l'euro près. Une diminution des bases alors de CFE, c'est ce que je vous disais en introduction de propos, de 50% pour les locaux industriels, ce qui représente donc pour nous une recette en moins de 30% sur le territoire de la CCPOL. Elle serait normalement intégralement compensée par l'État. Une perte de la CVAE, donc de 200 000 euros, qui n'est que due à la crise et aux exonérations que les entreprises ont pu avoir dans le cadre de la gestion de la crise. Donc là, on n'aura aucun remboursement. Et une évolution des bases prévues par la loi de finances. Donc c'est ce que vous disiez, Monsieur Lacroix, à 0,2%. Est-ce que sur la partie fonctionnement, quelqu'un a des observations ou des questions ? Ou est-ce que je poursuis sur l'investissement ?
Je continue ? Poursuis Stéphanie sur la partie investissement 2021.
Alors, sur la partie investissement, on va peut-être faire à l'envers. On va commencer par la page 44 avec les comptes de résultats que l'on vous a mis en global pour que vous ayez, et puis surtout, on aura des éléments de comparaison peut-être les années à venir avec l'ensemble des budgets, puisque là, des budgets annexes se sont rajoutés, notamment par rapport à l'assainissement collectif et à l'eau. Donc, les comparaisons ne sont pas forcément faciles à faire en termes d'excédent global de clôture, mais on a quand même, à la fin d'année 2020, 3 328 789 euros qui sont tout à fait honorables. En rétrospective des comptes, on vous a fait simplement un compte administratif 2020 qui est normalement complètement juste maintenant. Donc, pour que vous ayez une comparaison à faire et une évolution entre 2016 et 2020, donc ce qui vous permet de voir les évolutions telles qu'elles sont. Peut-être que si vous n'avez pas de questions, on va directement passer au prévisionnel du BP qui est en page 56 pour que vous puissiez après revenir sur la liste des investissements tels qu'ils vont être dimensionnés. Donc sur on vous a repris sur à la page 56, c'est bon. Donc on reprend donc le CA 2020 dans lequel après on vous a fait deux colonnes différentes, une avec le budget intégrant le budget de annexe de Boisse et l'autre n'intégrant pas l'opération de Boisse. Pour la simple et bonne raison, c'est que sur le budget principal tel que vous allez le voter pour 2021, vous allez devoir inscrire une ligne, notamment pour l'équilibre en fait du budget de la zone de Boisse. Mais ce n'est qu'une écriture budgétaire, donc il n'y a pas de réalité de chiffres qui seront mis en avant au niveau du compte administratif quand vous le voterez à la fin de l'année 2021. Donc pour vous donner une image plus fiable, plus réelle, disons, du budget 2021, on vous a fait la colonne sans Boisse pour que vous ayez vraiment une idée des excédents et des capacités d'investissement que vous pouvez avoir. Donc, on part en entrée de tableau telle qu'on l'a terminée en 2020, donc à 5 532 000, et donc ce que vous retrouvez en page 57, et donc que vous retrouvez en début de page 56 pour les BP avec et sans Boisse. Donc, si on regarde le BP sans Boisse, on va s'intéresser à celui-ci dans un premier temps. On a des produits de fonctionnement qui sont évalués à 17 101 000 euros et des charges de fonctionnement à 15 611 000 avec tous les paramètres dont je viens de vous faire état en début de présentation. Ça nous fait un excédent brut courant d'1 490 000 euros, donc ce qui est tout à fait raisonnable et tout à fait acceptable pour pouvoir surtout prendre en charge votre dette. Donc avec une épargne de gestion, donc à 1 480 000 euros, ça vous fait une épargne brute en enlevant les intérêts de la dette à 1 449 000 euros. Et si vous rajoutez le capital qui s'élève à 591 000 euros, ça vous fait une épargne nette à 858 000 euros. Ensuite, ce que l'on a fait, c'est qu'en fin de tableau, à chaque fois, on vous propose pour que, en fonction des strates telles que la nôtre, il est préconisé de terminer en fonds de roulement de fin d'exercice aux alentours d'1,5 million. Donc on a pris le problème à l'envers, on vous a inscrit à peu près 1,5 million, donc exactement 1 692 000 euros. Et au vu des subventions, donc des financements d'investissement que vous avez, on vous a permis d'avoir une idée de ce que vous pourriez investir en termes de dépenses. Donc, ce qui ferait des dépenses d'équipement direct à hauteur de 7 669 000 euros, dont les restes à réaliser, hein, c'est pas en plus, dont les restes à réaliser qui sont aux alentours de 2 761 000 euros. Donc, ce qui vous, avec des dépenses d'équipement indirect de 130 000 euros et après quelques autres opérations supplémentaires à 120 000 euros. Ce qui fait que vous pouvez maintenant consulter le tableau qui liste l'ensemble des investissements et dont le total se trouve en page 43 et où là on vous a évalué en fait un montant à 4 908 000 euros d'investissements qui ont déjà été étudiés en commission des finances mais qui, là nous sommes qu'au débat d'orientation budgétaire, il y aura peut-être des choses qui seront encore à réajuster mais ça vous montre le volume des capacités d'investissement que vous pouvez avoir sur le budget communautaire.
Je voulais juste insister sur les dépenses d'investissement. Il y a un secteur qui, une année, n'avait fait l'objet d'aucun investissement important, c'était la voirie. Vous regarderez effectivement la somme inscrite dans la voirie, elle est importante, d'autant plus vu l'hiver que l'on a eu, qui a été quand même pluvieux, un peu de froid, un peu rigoureux. Donc on a mis une somme importante à plus de 1 million d'euros. Je vois que M. Granet est très content, je vois qu'il me fait voilà, des 12 yeux sur la droite. Voilà, donc... Vous regarderez, il y a effectivement des propositions de départ avec tous les travaux qu'il y aura à réaliser, puis il y a des choix budgétaires à faire en fonction effectivement de ce qui nous reste et des possibilités que nous avons.
Bien, est-ce que, d'abord excusez-nous pour notre retard, hein, est-ce qu'il y a sur cette partie du budget général des questions ? Donc, on vous propose de poursuivre avec les budgets annexes. S'il n'y a pas de questions, ouais. Très bien, on poursuit.
Alors, le budget ordures ménagères. Donc là aussi, alors attendez, que je reparte. Donc sur 2021, donc vous voyez qu'on part en fin d'exercice 2020 à 765 000 euros, donc de fonds de roulement de début d'exercice que l'on retrouve en 2021. Au niveau des produits de fonctionnement, on est sur 3 092 000 euros. Donc là, on a essayé de le faire au plus juste, notamment par rapport aux exonérations que vous aviez votées sur 2020 pour les gros utilisateurs. On a essayé de repartir sur les mêmes bases, mais voilà, il y aura peut-être sans doute des réajustements à faire à la marge, mais on est plutôt réaliste sur ce montant-là. Ça nous fait aussi des charges de fonctionnement à hauteur de 3 202 000 euros. Donc, si vous faites la différence entre nos produits et nos charges de fonctionnement, vous voyez qu'on est en déficit brut de 110 000 euros. Donc, ce qui pose problème, pas forcément dans l'immédiat, puisque nous avons une entrée de tableau qui reste encore confortable. Mais ce qui pose problème dans le cadre d'un service public industriel et commercial dont normalement les dépenses doivent être complètement couvertes par les redevances des usagers. Ensuite, nous avons un résultat exceptionnel de moins 10 000 euros. Donc ça nous fait en fait une épargne de gestion de moins 120 000 euros, auquel on rajoute un capital de la dette qui n'est pas très élevé mais qui est à 34 000 euros. Donc ça nous fait moins 154 000 euros. Un financement d'investissement, donc pour l'instant, qui est à zéro, et des dépenses d'équipement en termes d'investissement, donc à 765 000 euros, dont 247 000 euros de reste à réaliser. Donc on finit en fait avec une variation à moins 765 000 euros qui viennent s'équilibrer avec le fonds de roulement de début d'exercice.
Bien, est-ce que sur cette partie-là, vous avez des questions ? Bien, on poursuit.
Pour le budget de l'eau, donc on repart de la même manière avec un CA qui était anticipé, donc 2020, on a encore des petites bricoles à finir de caler, donc à 1 011 000 euros, pardon, donc ce que vous retrouvez en début de tableau 2021. Avec des produits de fonctionnement courant à hauteur d'1 917 000 euros et des charges d'1 939 000 euros, donc qui ne couvrent pas, nos produits ne couvrent pas en totalité les charges de fonctionnement. Il y a une dette faible, mais qui est comptabilisée donc juste en dessous, donc avec les intérêts de la dette à hauteur de 12 000 euros et un capital de dette à 40 000 euros, ce qui fait une épargne nette de négative de 74 000 euros, auquel on a rajouté des financements d'investissement donc de 370 000 euros et des dépenses à hauteur d'un million 381 000 euros. Ça nous fait une variation donc négative à moins 1,11 000 euros qui viennent équilibrer avec le fonds de roulement de début d'exercice.
Bien, est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là ? Pas de questions, on poursuit.
Budget assainissement, donc une entrée de tableau à 539 000 euros, donc avec des produits de fonctionnement d'1 741 000 euros, des charges de fonctionnement à hauteur d'1 707 000 euros, donc ça nous fait un excédent positif de 34 000 euros, auquel on rajoute, enfin on enlève plutôt, les intérêts de la dette et le capital de la dette, ce qui nous fait une épargne nette négative de 291 000 euros. Avec des financements d'investissement à hauteur de 612 000 euros et des dépenses à hauteur d'1 151 000 euros pour équilibrer. Donc, ça nous fait une variation à moins 539 000 euros.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions, on poursuit.
Eh bien, je crois que j'ai terminé, bon. Monsieur le Président.
Ah oui, pardon, je n'avais pas tourné la page, excuse-moi. Bien, donc par rapport à ce débat d'orientation budgétaire, donc Stéphanie vous a présenté les principaux éléments. Est-ce qu'il y a des qui vont préfigurer d'ailleurs le budget, les budgets qui seront présentés au mois d'avril lors de notre prochaine séance qui est le 8 avril. Pas de questions ? Donc, je vous propose de considérer que le débat d'orientation budgétaire s'est tenu. Pas de souci. Je vous en remercie. Donc, je lève la séance du débat d'orientation budgétaire et on va ouvrir la nouvelle séance donc, du Conseil communautaire. Alors, je vais peut-être procéder à l'appel puisque... Mais laissez-moi juste le temps de retrouver ma liste d'appels. Voilà. Donc, Pierre Alaroui, Anne-Marie Almoster-Rodriguez, Johan Balestra, Christine Ballet, excusez, Hervé Baudet, Laurence Beige, Laetitia Calandro, Mireille Chabot, Fabrice Chaminade, Laurent Chazelas, Anne-Sophie Chazel, Pascal Cluzot, Lucien Coindeau, Édouard Coquillot, Nadège Coucot, Eliane Crossi, Annie Dardillac est excusée, représentée par Christian Vigneron, Frédéric d'Auvergne, Bernadette Desroches, Jean Duchambon, Alain Favreau, Alex Gerbeau, Thierry Gouraud, Jean-Pierre Granet, Thierry Granet, Fabien Brias, Philippe Lacroix, Vanessa Lannette-Pichot, Claudine Latière, Didier Lequief, Isabelle Milor, Joël Pichon a donné procuration à Didier Lequief, Vola Rakoto Maefa, j'ai pas vu, Benoît Sadri, elle t'a donné un pouvoir et donc, si on ne l'a pas, on ne peut pas le prendre en compte. Benoît Sadri, je crois que je l'ai dit. Raymond Vouzelot. Bien, donc je vous refais passer la liste pour émarger pour le Conseil communautaire maintenant. Et on va passer à l'ordre du jour. Donc, par rapport à l'ordre du jour, vous avez la convention avec l'association KOLFM qui est reportée et vous avez une délibération qui a dû vous être mise sur table qui concerne les subventions allouées aux associations du territoire pour l'année 2021 et qui était intégré au dossier remis en séance. Donc, voilà, donc vous devez l'avoir. Et je vous propose tout de suite qu'on commence l'ordre du jour. Donc la première question, avant que je passe la parole à Philippe pour les finances, la première question concerne une modification dans la représentation au sein de la quatrième commission, puisqu'il faudrait désigner Gérard Bacle, donc ça c'est pour la commune de Saint-Martin-de-Jussac, en lieu et place de Sylvie Dousseau, donc à la demande de la commune de Saint-Martin-de-Jussac. Je te cherchais, je ne te voyais pas. Est-ce qu'il y a des questions, des abstentions, des votes contre ? Adopté à l'unanimité. Donc on passe aux finances. La première question, le débat sur l'adoption d'un pacte de gouvernance. Tiens, on prend
ça. Oui, donc première délibération, débat sur l'adoption d'un pacte de gouvernance au sein de la communauté de communes, porte au sein du Limousin. Donc la loi de 2019, engagement et proximité, elle offre la possibilité donc aux EPCI de mettre en place un pacte de gouvernance. Donc il a pour objectif de définir les relations entre les communes et l'intercommunalité. Le rôle des différentes instances est de renforcer la participation des maires et des élus municipaux au fonctionnement de l'EPCI. Alors, chose très importante, ce pacte de gouvernance n'est pas obligatoire. S'agissant de notre EPCI, eh bien, on peut constater que l'ensemble des maires sont au bureau de la Pôle, réunis deux fois par mois, permet d'assurer une communication fluide entre la commune et l'intercommunalité. De même, les élus municipaux participent régulièrement donc aux différentes commissions. Donc la question est de savoir s'il y a nécessité ou pas de mettre en place ce pacte de gouvernance, sachant que sans qu'il soit mis en place officiellement, nous le pratiquons déjà sur la communauté de communes.
Oui, mais pour tout vous dire, il y a une discussion qui est intervenue en bureau. En bureau, l'ensemble des maires donc, qui sont représentés au sein du bureau ont jugé qu'il n'y avait pas lieu de mettre en place un pacte de gouvernance puisque tous les maires, toutes les communes sont représentées au bureau et que ça avait tendance à alourdir un peu plus encore les discussions et qu'on s'est aperçu d'ailleurs que certaines communautés de communes voisines qui avaient voulu adopter un pacte de gouvernance ont été retoquées par la préfecture parce que les préfectures considéraient que les pactes de gouvernance donnaient trop de pouvoir aux communes, alors ce qui est un peu à contresens de ce qu'on veut faire, nous, puisque l'idée qu'on a toujours eue, et qui est d'ailleurs dans nos statuts fondateurs et dans notre règlement intérieur, c'est justement de donner plus de pouvoir aux communes en faisant en sorte que toutes les communes soient représentées autour de la table du bureau communautaire, afin que chaque maire puisse exprimer ses accords ou désaccords, et ensuite qu'on revienne aussi vers les communes à l'initiative des maires pour assurer pour gérer les questions relatives à chaque commune. Donc voilà, on a considéré au niveau du bureau qu'il n'y avait pas lieu d'aller vers ce pacte de gouvernance et on vous proposerait de ne pas aller vers ce pacte de gouvernance en sachant qu'on a tout loisir de revenir par la suite sur notre décision si on voit que cela peut poser problème. Est-ce qu'il y a des questions ? Donc je vous proposerai de ne, conformément à la demande du bureau, de ne pas approuver, de ne pas mettre en place ou de ne pas approuver l'élaboration d'un pacte de gouvernance entre la communauté de communes et ses communes membres. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre ? Donc adopté à l'unanimité. Tu poursuis avec le conseil de développement.
Oui, délibération suivante, débat sur le conseil de développement et la modalité de consultation des citoyens. Donc c'est pareil, hein, c'est la loi engagement proximité de 2019 qui permet effectivement le conseil de développement et permet effectivement aux EPCI de consulter les citoyens sur des choses ou des projets importants pour la collectivité, notamment effectivement dans le cas du PCAET comme c'était effectivement noté ici. Donc il vous est demandé de délibérer, est-ce qu'on poursuivre effectivement cette politique qui nous permet d'associer la population à différents projets communautaires à travers des outils existants, sans qu'il soit nécessaire de créer un outil de développement, un conseil de développement, puisque ce sont des choses qui existent déjà, là aussi, au sein de notre communauté de communes.
Merci. Et d'autre part, on souhaite aussi laisser l'initiative aux maires, à chaque fois qu'ils le souhaitent,
dès que c'est possible,
de pouvoir consulter leur population sur un certain nombre de projets, notamment s'il y a un projet qui concerne plus particulièrement une collectivité. Si le maire souhaite consulter sa population, ou si son conseil souhaite consulter la population, c'est à la libre disposition, je dirais, des élus. Nous, dans notre communauté de communes, on a effectivement prévu au sein de nos différentes structures, et c'est ce type de consultation, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec le PCAET, et qui va se poursuivre, puisqu'il y a les groupes de travail du PCAET qui vont se poursuivre prochainement avec les réunions avec le mouvement associatif et les particuliers, enfin tous ceux qui avaient déjà participé au PCAET par le passé. Est-ce qu'il y a des questions, Monsieur Balestra?
Oui, merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Les citoyens et les corps intermédiaires ont soif de démocratie, et pourtant, dans sa forme traditionnelle, cette dernière est en partie délaissée par nos concitoyens. Les nouvelles modalités de participation, qu'il s'agisse de démocratie participative ou de démocratie délibérative, ont fait leur preuve. Non seulement elles permettent d'ouvrir le débat à celles et ceux qui ne l'investissaient pas, mais elles permettent aussi de porter un changement ambitieux. Il n'y a qu'à regarder l'expérience de la Convention citoyenne pour le climat pour s'en convaincre. Ses membres ont mené un travail sérieux qui aboutit à des propositions remarquables parce qu'elles sont sensées, argumentées, crédibles. Et alors même qu'elles sont le fruit d'un consensus issu de personnes ayant initialement des opinions divergentes, ces propositions semblent bouleverser la donne à tel point qu'elles n'ont pas été intégralement reprises dans le texte en débat à l'Assemblée. Dans ce cadre, pour revenir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, il nous semble important de réfléchir à l'opportunité de créer un conseil de développement dans notre communauté de communes, de réfléchir à celles et ceux, citoyens, associations, syndicats, chefs d'entreprise, qui pourraient être associés à nos réflexions et qui pourraient évaluer nos actions de manière plus pérenne que ce qui est fait sur quelques dossiers et sans arrêter ce qui existe déjà, sans rien enlever aux maires. Il apparaît donc prématuré, selon notre groupe, d'écarter en bloc cette possibilité qui devrait être examinée de façon détaillée par notre Assemblée via un groupe de travail dédié. Telle est la position d'Énergie citoyenne.
Je vous remercie. Alors, je rappelle que là aussi, nous avons tout à fait la possibilité de revenir sur notre position si cela s'avère nécessaire. Je rappelle aussi, et je ne voudrais surtout pas, parce que je vois bien ce qui se passe de temps à autre, qu'on vienne nous accuser, nous les élus, de ne pas développer de la participation citoyenne. Parce que, non mais je le dis, parce que j'ai l'habitude de voir des fois des remarques sur des réseaux sociaux qui me paraissent un peu ubuesques à certains moments, mais j'aurai l'occasion d'y revenir à un moment donné. Je dois dire que la participation citoyenne, on la développe sous toutes ses formes. D'abord, en étant présent au travers de toutes les assemblées, écouter et entendre ce qui se dit, et je crois que la présence sur le terrain, c'est aussi une possibilité importante qui nous est donnée et qui permet à tout un chacun de s'exprimer. On le fait au travers des grands projets, mais je dirais qu'on le fait aussi, vous parliez tout à l'heure des chefs d'entreprise, c'est ce que l'on fait aussi au travers de la pépinière d'entreprise avec les chefs d'entreprise et avec les rencontres économiques qui ont lieu régulièrement. Et on le fera aussi prochainement avec les rencontres que l'on va organiser et qui seront organisées sur la durée du mandat avec les populations. Je crois qu'il y a des aspects importants à discuter, à négocier, avec même dans certains cas. Et lorsqu'on parle par exemple du PCAET, je vous disais, tout l'ensemble des groupes de travail et de pilotage du PCAET qui vont être mis en place sur une discussion dans un projet qui finalement recoupe une grande partie des projets de notre collectivité, puisque le PCAET touche à certains moments à l'économie, au développement durable et à bien d'autres projets de manière transversale. Donc les maires n'ont pas souhaité, dans un premier temps, mettre en place ce conseil de développement, mais se gardent la possibilité, si éventuellement on constate que la consultation n'est pas suffisante, mais la possibilité d'aller plus loin dans cette démarche. Néanmoins, on ne veut pas non plus se substituer au débat qui peut intervenir dans les collectivités. Et on ne peut pas non plus se défausser du vote républicain qui fait qu'autour de cette table, il y a aussi des élus qui ont été élus au suffrage universel et qui sont aussi en quelque part les représentants des populations et qui non seulement sont les représentants des populations, mais qui sont garants devant l'autorité de la bonne gestion de ce qui se fait sur le terrain. Donc, moi, j'entends ce qui est dit. Je dirais que la conférence pour le climat, c'est bien. Il y avait certainement un grand nombre de spécialistes à l'intérieur. Il y avait aussi des personnes qui n'étaient pas des spécialistes qui ont donné leur avis. Il y a, et je ne juge pas, je prends acte de ce qui s'est dit. Il y a beaucoup de critiques d'un côté, beaucoup de compliments de l'autre. Il n'en demeure pas moins que quand on regarde dans le texte de loi, il est peu modifié par rapport au début. Donc, je ne crois pas forcément aux consultations citoyennes qui sont là juste pour faire de la com' politique. Moi, je crois plus à l'interaction que les élus ont sur le terrain avec les populations directement ou avec le mouvement associatif, suivant le cas, ou les chefs d'entreprise ou autres. Alors, c'est vrai que des fois, on se fait engueuler, pour dire clairement, mais ça peut avoir aussi son utilité, ça amène à réfléchir, à se remettre en cause, et ça, c'est ce qui me paraît être la démocratie de base qui est la plus importante dans nos territoires et que des fois on a un peu perdu de vue. Voilà. Monsieur Granet.
Merci, Président. Moi, j'entends ce qui est dit, mais si les citoyens ont soif de démocratie, et c'est nul doute vrai, ils en ont soupé aussi du millefeuille qu'au nom de la démocratie, on ne cesse d'instituer. Le président vient de le rappeler. Il me semble que les élus locaux ont pour habitude de consulter leur population à chaque fois qu'il y a un projet. L'exemple que le président vient de reprendre, effectivement, sur la conférence sur le climat, c'est sûr que c'était un bel exercice démocratique, largement traité par le mépris par le gouvernement à l'issue de l'exercice. Et puis, à nouveau, effectivement, comme la délibération précédente d'ailleurs, il a été rappelé que rien n'est gravé dans le marbre et que si l'avenir faisait sentir un besoin de l'écrire, eh bien, ma foi, rien ne nous interdirait de le faire. Mais pourquoi toujours rajouter des millefeuilles, de rajouter des intermédiaires aux intermédiaires, alors que sur ce territoire, j'ai la faiblesse de penser que les choses se passent bien. Et le président l'a rappelé effectivement à nouveau, la démocratie, c'est quoi? Est-ce ce millefeuille sans cesse renouvelé ou est-ce simplement l'application normale, le fonctionnement normal de nos institutions? Les citoyens sont convoqués aux urnes tous les 6 ans. Ils délèguent une partie de leur pouvoir aux élus qu'ils mettent en place. Ces élus ont en charge de réaliser un programme et d'interpeller leurs citoyens quand il leur semble bon de faire. Et la sanction, elle tombe tous les 6 ans. C'est ça, la vraie démocratie. Donc, on peut toujours rajouter des groupes de réflexion aux groupes de réflexion. D'ailleurs, ça pose le problème de la légitimité de certains qui figurent dans ce genre de soi-disant conseil de développement démocratique et compagnie. Parce que quand j'entends parler d'un tirage au sort des citoyens pour statuer sur des sujets éminemment essentiels, j'ai des doutes. Donc, c'est bien beau tout ça, mais là, on est vraiment dans la sémantique et on est dans l'air du temps qui va, me semble-t-il, à l'encontre de l'exercice même de la démocratie.
Monsieur Balestra.
Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues. Je vais répondre parce que, visiblement, je n'ai pas forcément été peut-être bien compris. Je me suis sûrement mal exprimé. J'ai bien dit qu'il ne s'agissait pas de supprimer des outils existants. Je n'ai pas dit que ça enlevait de la légitimité à quiconque. C'est simplement aujourd'hui la possibilité de mettre en place un nouvel outil démocratique, d'utiliser différentes formes de démocratie. C'est pas parce qu'on en met plus que ça en enlève, ça en ajoute. Donc aujourd'hui, ce qu'on vous demande simplement, c'est de dire, avant de rejeter cette proposition, étudions-la de près, tous ensemble, voyons comment ça fonctionne, comment ça pourrait fonctionner, avec qui, comment, quelle formalisation. Regardons les expériences de communautés de communes qui ont mis en place ce genre de dispositif. Voilà, c'est simplement prendre le temps de se dire, est-ce qu'effectivement, ça n'a pas vocation à être mis en place sur notre territoire, ou est-ce qu'on peut le mettre en place. Et puis sur la Convention citoyenne, c'est exactement ce que j'ai dit sur mon propos. C'est-à-dire qu'on avait un travail qui a été d'une excellente qualité, avec des gens qui se sont investis, qui ont appris énormément durant ce processus, qui en partie se sentent effectivement floués par rapport au texte qu'il en ressort aujourd'hui et qui est examiné devant l'Assemblée. Mais moi, je vous dis, ça n'enlève rien à ce qui est fait et on est favorable à ce que tout se poursuive, que ce soit sur le PCAET, etc. Donc voilà, banco pour travailler sur cette idée. Et puis, si effectivement, on se rend compte que collectivement, elle ne peut pas être mise en place, eh bien, dont acte. Mais ne l'écartons pas comme ça en bloc, je dirais de façon un peu, pour le coup, caricaturale.
Alors, je voudrais quand même revenir sur un point. On n'a pas pour habitude au bureau de la communauté de communes d'écarter les choses de façon caricaturale. Les maires qui sont au bureau examinent avec beaucoup d'attention les dossiers qui leur sont présentés et je ne peux pas accepter qu'on dise que c'est écarté de manière caricaturale. Je voudrais quand même le préciser parce que on a l'impression que les maires qui siègent dans le bureau de la communauté de communes balaient d'un revers de manche les dossiers. Donc il n'y a pas de caricature qui se fait. Il y a des analyses très sérieuses qui sont faites, qui sont d'ailleurs présentées également par les services, à tel point que j'aurais pu rajouter que le Conseil de développement n'est obligatoire que pour les villes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants. C'est bien pour ça d'ailleurs que le législateur a pris un certain nombre de précautions quant aux difficultés qu'il y avait à mettre en place ce type de projet sur des communes ou des communautés de communes inférieures à 50 000 habitants. Moi, je vous propose de voter en l'état. Alors déjà, de considérer qu'il y a eu quand même un monsieur Balestra. Dernière intervention et après on passe au vote.
Oui, juste pour que les choses là aussi soient très claires. À titre personnel et au nom du groupe, on a énormément de respect pour le travail qui est fait par le bureau au sein de la communauté de communes. Simplement, nous sommes aussi une assemblée et en tant que conseiller communautaire, on a la possibilité qui nous est offerte, et c'est celle que je saisis aujourd'hui, pour faire également des propositions, tout comme on participe aux commissions, etc. Donc, n'en prenez pas ombrage de cette proposition, ce n'est pas une remise en cause du bureau communautaire, c'est simplement l'expression d'une proposition émise par un simple conseiller communautaire.
Non, mais je n'ai pas pris ombrage de la remarque faite par un simple conseiller communautaire, j'ai pris ombrage du mot « caricature ». Je le précise, et pour bien ramener les choses dans leur contexte. Sinon, je pense que je suis à l'écoute et je ne prends pas ombrage des remarques ou des questions qui peuvent être posées. Par contre, on ne peut pas dire qu'on balaie d'un simple revers de main ou sous forme de caricature une demande, une délibération telle qu'elle est présentée. Donc, je vous propose, moi, compte tenu de ce qui m'a été proposé par l'ensemble des maires, de voter en l'état la délibération et de resoumettre par la suite au bureau, puisqu'il y en a un qui va se tenir sans tarder, la possibilité éventuellement au maire, compte tenu de ce qui a été discuté ce soir, de s'il souhaite qu'on remette ce projet et qu'on crée un groupe de travail pour en discuter. Dans l'immédiat, j'en reste, moi, et je vous présente la proposition qui a été faite par le bureau de la communauté de communes, en attestant que le débat s'est quand même tenu. Est-ce qu'il y a des abstentions ? 2, 3, 4, des votes contre, adoptés à l'unanimité, à la majorité. C'est bon pour les abstentions. Monsieur d'Auvergne, Madame Chazelle, Monsieur Balestra, Monsieur Cheminade. Je vous propose de poursuivre avec le transport et traitement des boues d'épuration des stations.
Oui, les boues d'épuration des stations. Non, c'est pas facile à dire. Deux stations d'épuration sont concernées. L'une à Saint-Junien, le moulin Pellegros, et l'autre à Rochechouart avec la station de la Maillerie. Donc l'estimation de la dépense est évaluée à 90 000 euros. Il y a eu un appel d'offres, une analyse des offres établies par les services et l'attribution des accords cadres a été affectée à la société Papec Agro, située à Saint-Paul-la-Roche, dans la Dordogne, dont les offres sont les mieux classées en référence aux critères de jugement. Donc, le conseil communautaire, il doit effectivement autoriser le président à signer les accords cadres à bon de commande et constater évidemment l'inscription des crédits au budget d'assainissement.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions ? Des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité. Je signale l'arrivée de Madame Latière. Non, mais c'est pour l'enregistrement après. Pour les votes.
Pardon, Marie.
Alors, je vous propose de poursuivre avec l'économie, et notamment la cession de la parcelle CY407 à la SAS Europe Fingest, je ne sais pas comment on l'appelle.
Fingest.
Donc cette délibération concerne la demande de la SAS Europe Invest, représentée par monsieur Jean-Baptiste Bertrand, d'acquérir la parcelle CY407 d'une superficie de 6679 m² au prix de 160 296 euros TTC sur la zone de Boise à Saint-Junien. Il sera demandé à l'acquéreur de respecter des délais d'exécution suivants. Premièrement, de commencer sans délai dès la signature de l'acte authentique des études destinées à la réalisation de son projet. Deuxièmement, le dépôt de la demande du permis de construire dans un délai de 6 mois à compter de la signature de l'acte authentique. Troisièmement, commencer des travaux de construction dans un délai de 12 mois à compter de l'obtention du permis de construire ou de la signature de l'acte authentique. Et enfin, présenter une déclaration d'achèvement de travaux dans un délai de 36 mois à compter de l'expiration du délai précédent. Donc, il vous est demandé de délibérer sur la demande de la vente de cette parcelle au prix de 160 296 euros TTC, d'inscrire dans l'acte notarié les délais d'exécution engageant l'acquéreur à compter de la signature de l'acte authentique, comme je viens de vous le préciser avant, dire que les délais pourront être éventuellement prolongés, bien évidemment par délibération du Conseil communautaire, en cas de force majeure, et c'est donc l'acquéreur qui devra apporter la preuve de la force majeure. De décider d'appliquer des sanctions financières à l'égard de l'acquéreur en cas de non-respect des délais précités, soit un millième du prix de cession hors taxe par jour de retard, qui sera plafonné à 25% du prix de cession hors taxe à compter du 15e jour suivant la réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la communauté de communes mettant en œuvre l'acquéreur d'avoir à exécuter ses obligations restées infructueuses. Désigner maître Coulot pour la rédaction de l'acte, dire que les frais de notaire seront à la charge de l'acquéreur, dire que cette cession pourra être précédée par la signature d'un compromis de vente sous conditions suspensives, dire que la cession devra respecter le code général des collectivités territoriales et dire que les crédits seront constatés au budget de l'exercice en cours et enfin autoriser le président à effectuer toutes les démarches et à signer toutes les pièces pour mener à bien ces opérations.
Je remercie. Oui, pardon.
Vas-y.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur d'Auvergne.
Monsieur le Président, c'est juste pour savoir ce qui se cache derrière la société Europe Finges.
Des ambulances.
C'est les ambulances à faire secours, ouais. C'est ça. Tout à fait.
Et peut-être une station de lavage aussi.
Oh ben, oui, enfin pour les ambulances, mais, ouais. Mais c'est les ambulances, oui, essentiellement. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions? Des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité. On poursuit avec la zone artisanale de l'âge. Ouais.
Donc, Madame Sarah Roudier, entrepreneur individuel, et Monsieur Jérôme Ferron, qui habite donc à la zone artisanale de l'âge, située sur la zone artisanale de l'âge, à Saint-Brice-sur-Vienne. Attends. Qu'est-ce que j'ai loupé? On sollicitait la communauté de communes en vue d'une acquisition de terrain situé donc à Saint-Brice-sur-Vienne, cadastré AL47 et AL52, d'une superficie totale de 3371 m², afin d'y développer une activité artisanale. Il est proposé au Conseil communautaire d'accepter la vente de ces terrains donc à ces deux personnes pour un prix de 5800 euros hors taxe. Voilà, mais je ne vais pas répéter, donc bien évidemment, c'est Maître Kim qui rédigera l'acte authentique et les frais seront à la charge de l'acquéreur. Et bien évidemment, le président, on autorisera le président à mener toutes les démarches afférentes à ces opérations et à signer toutes les pièces et tous les actes nécessaires à la réalisation de cette vente. Les crédits seront constatés au budget de l'exercice en cours et cette délibération annulera la délibération 2019-262 du 28 novembre 2019.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions ? Des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité. On poursuit avec la zone d'activité de Saint-Viturnien et à la cession de parcelles à la SCI Métissandre.
Merci, Monsieur le Président. Donc, la SCI Métissandre, représentée par François Collet, demande d'acquérir à Saint-Junien, au lieu-dit, les terres du Loubier, les parcelles constructibles AL389. 381, 382, 387, 386, 385 et 383 d'une superficie totale de 15 589 mètres carrés au prix TTC de 74 000 euros, soit 4,80 euros le mètre carré. Il souhaite également donc acquérir des parcelles à vocation de stockage AL391, 302 et 305 d'une superficie totale de 18 213 mètres carrés au prix de 19 500 euros TTC. Donc cette délibération a déjà été prise en novembre 2020 avant le découpage parcellaire. Donc, elle reprend les bons numéros des parcelles suite au découpage et ajoute d'autres terrains non constructibles et qui intéressent l'entreprise de stockage. Il vous est donc demandé de compléter la délibération 2020-232 du 19 novembre 2020 et de vendre les parcelles précitées au prix total de 93 500 euros à la SCI Métissandre. Maître Patrick Kim sera le rédacteur de l'acte. Les frais de notaire sont à la charge de l'acquéreur. Donc cette cession pourra être précédée par la signature d'un compromis de vente sous conditions suspensives. La cession devra respecter le code général des collectivités territoriales. Les crédits seront constatés au budget de l'exercice en cours et on devra autoriser le président à effectuer toutes les démarches et signer toutes les pièces pour mener à bien ces opérations.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, Monsieur Dauvergne.
Président, c'est juste aussi à titre d'information pour savoir quelle entreprise va s'installer sur ces parcelles, si on en connaît la nature du projet également.
Collé, c'est transport collé.
C'est transport
de bois.
D'accord.
Donc, c'est du bois qui est destiné à International Paper, normalement.
D'accord.
Monsieur le Président, si tu me le permets.
Attends, Monsieur Dauvergne n'a pas fini, je crois.
J'avais pas terminé. Juste, donc, si c'est des transports, ça va poser le problème aussi sur la circulation sur cette zone. Donc, l'entrée de cette zone se fait par l'accès sur le village de la Barre. Donc, si c'est des camions, je m'inquiète un petit peu sur cet accès-là. Donc, autant la sortie, elle pose pas de problème, et l'entrée venant de Saint-Junien ne posera pas de problème, et l'entrée de cette zone par Limoges va certainement poser des problèmes au voisinage du village de la Barre. Donc, je voulais savoir si les citoyens de ce village avaient été bien sûr consultés.
Ben, écoutez, alors oui. Monsieur Duchambon et après Monsieur Granet.
Oh non.
Monsieur Granet, allez-y.
Non, mais tu vas donner tu es directement concerné.
Allez-y, c'est Monsieur Granet. Tu connais.
Non, mais vas-y, Jean.
Je t'en prie.
Bref.
Mais j'avais pas l'intention de prendre la parole ce soir, finalement, et de nommer Saint-Victurnien engendre toujours, finalement, une prise de parole. Et j'en suis m'envoyé fort aise. Mais c'est une certaine fierté, et c'est une certaine fierté, finalement, que d'avoir une structure qui s'installe sur notre commune avec quelques milliers de mètres carrés, oui, constructibles, avec du stockage finalement de bois à la clé. Nous avons consulté, je dirais que c'est les services du département, puisque c'est la RD 941 finalement qui est concernée. Nous avons fait une visite sur site avec accès et autorisation finalement des services du département pour pouvoir avoir entrée et sortie à ce niveau-là. Vous dire que les riverains de la Barre étaient concernés, est-ce que ça va véritablement engendrer un flux de trains finalement, comme on peut le voir, de bois supplémentaires, c'est-à-dire des camions qui se succèdent les uns après les autres. Je pense vraiment pas, Monsieur d'Auvergne. Mais enfin bon, c'est une structure qui est déjà existante sur Saint-Victurnien. L'important était son activité est actuellement non pas dans du stockage, mais la raison sociale et avec le stockage finalement de camions se fait dans un lotissement. Moi, ça m'arrange que ça soit plutôt concentré dans une zone artisanale ou une zone industrielle dédiée à cela. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Oui ?
Oui, vous avez répondu à ma question. Aux inquiétudes des riverains, je ne suis pas certain, par contre, mais bon.
Et les riverains de la Barre, je veux dire, moi j'attends, a priori, il va y avoir d'après ce que j'ai compris, puisque nous sommes riverains, Saint-Victurnien et agglomération de Limoges, parce que la Barre, c'est l'agglomération de Limoges, hein, je vous le rappelle, il doit y avoir un aménagement spécifique qui doit être fait par l'agglomération pour gérer le flux et orienter finalement ce flux vers d'autres secteurs, notamment peut-être sur des points hauts de Vérac. Voilà, c'est ce que je peux vous dire pour le moment, c'est ce que je sais.
René, autre chose à rajouter ?
Oui, mais l'entreprise, elle va aussi reprendre l'entreprise qui existe déjà sur le territoire. Donc, ça va être juste un déplacement. Et c'est principalement des camions qui roulent à vide quand ils rentrent pour être entreposés tous au même endroit.
Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui.
Parce que on a le temps un petit peu, Président. Oui. Non, ce qui est important, finalement, c'est que c'est des lieux, finalement, de charge et de décharge. Hein. Ça va peut-être aussi être un argument pour dire que c'est des lieux de décharge, de stockage de bois, et c'est peut-être, finalement, aussi des transporteurs qui ne vont pas excéder la surcharge telle qu'ils pouvaient l'avoir il y a quelque temps sur nos routes départementales et sur nos routes communales. J'ose espérer. Argument supplémentaire.
Merci. D'autres questions ? Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Des votes contre ? Adopté à l'unanimité. On poursuit toujours à Saint-Victurnien. Grand développement avec la SAS ATA Solutions. Au lieu de dire des bêtises, moi je ferai mieux.
Donc la SAS Athénéa Solutions, représentée par M. Vadim Dobor, demande d'acquérir à Saint-Victurnien, au lieu dit les terres du Loubier, la parcelle AL377, une superficie de 2471 m² sur laquelle se trouve donc un hangar, et la parcelle AL390 de 745 m² afin d'y développer son activité artisanale. Il est à noter que cette entreprise est actuellement déjà locataire de ces terrains. Il est donc proposé au conseil communautaire de vendre ces deux parcelles au prix de 22 725 euros.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui ? Ah ben, si tu te poses une question à toi-même, maintenant, ça ne va plus.
Non, mais je préfère répondre aux questions, finalement, avant qu'on me les pose. C'est une entreprise, monsieur d'Auvergne.
Vous posez des questions et moi j'y réponds.
Qui a une structure de ventilation, finalement, par rapport au tunnel. Et vous voyez les gros, des grosses turbines, finalement, qui sont sur Saint-Victurnien. On n'a pas la 340, malheureusement, finalement, qui se dépose. Mais on a les ventilateurs qui vont avec et... Et je pense que c'est une structure que nous avons aidée d'ailleurs pendant la période Covid. Et on a vu passer d'ailleurs le dossier pour, je dirais, amoindrir leurs frais de structure. Et on espère finalement qu'ils vont aller un petit peu mieux dans les années à venir. Voilà. c'est une boutade. Quoique.
Monsieur Lacroix.
Oui, je voulais simplement dire un mot. Moi, je peux comprendre effectivement qu'on puisse avoir des inquiétudes sur la circulation, sur l'air, sur éventuellement la pollution. Je voudrais quand même revenir quand même sur quelque chose. C'est la dynamique économique de notre territoire. Parce qu'il faut quand même savoir que des territoires comme le nôtre, je pense que vous en parleriez au nord du département de l'Haute-Vienne, ils seraient extrêmement contents d'avoir des implantations d'entreprises comme nous avons. Rien que ce soir, quand vous voyez les cessions de terrain à des entreprises, il ne faut jamais oublier que les entreprises, c'est aussi des emplois. Et je crois que notre territoire sur la Haute-Vienne est un territoire qui géographiquement est bien placé, qui est extrêmement dynamique sur le plan économique. Et qu'on le veuille ou non, ben, la dynamique économique, c'est ce qui est créateur d'emplois. Donc je crois que ça aussi, il faut le souligner. Et les différentes délibérations qui viennent d'être présentées par Anne-Marie sont là à nouveau pour le prouver.
Pour confirmer d'ailleurs s'il était nécessaire les propos de Philippe Lacroix, il y a quelques instants avec ma collègue maire de Rochechouart, nous recevions donc Joël Giraud qui est le secrétaire d'État en charge de la ruralité, mais qui est surtout l'ancien rapporteur du budget de la Nation à l'Assemblée nationale. Et ancien maire de Gap, ce qui vous dit quand même qu'il a une petite expérience des collectivités, une certaine habitude de la politique puisqu'il nous a fait 2 heures sur le plan France Relance sans papier devant lui. Alors moi je ne suis pas toujours d'accord avec la politique du gouvernement ou avec le plan France Relance ou avec un certain nombre de choses, mais force est de constater qu'il a noté qu'on était sur un territoire qui était en développement ici, qui continuait son développement par rapport quand même à un grand nombre de territoires qu'il traverse tout au long de ses visites ministérielles et que on pouvait, je crois que c'est un bel exemple, on pouvait montrer que la ruralité était aussi un avenir pour la nation de demain en termes de développement, qu'il n'y avait pas que les grandes métropoles et que le milieu rural pouvait aussi montrer au niveau national que nous avions des atouts qui n'étaient pas que dans le développement d'entreprises, pas que dans le développement économique, mais qui étaient un certain nombre d'atouts et de valeurs. La Chambre d'agriculture était d'ailleurs présente pour expliquer un certain nombre de projets qu'elle avait avec les collectivités ou avec nos restaurations municipales et autres. Et je crois qu'on est effectivement sur un territoire dynamique, que le dynamique ne veut pas dire qu'on doit tout faire de n'importe quelle manière, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a malgré tout au niveau national des textes qui ont été élaborés par des ministères, que ce soit le ministère de l'écologie ou autre, qui font que quand on instruit des demandes de permis de construire, quand on instruit des projets d'aménagement pour nos zones industrielles, on prend un certain nombre de précautions qui... ne font pas sourire les chefs d'entreprise parce que bien souvent ça les amène à financer de manière beaucoup plus importante des projets qu'ils ne le pourraient ou qu'ils ne le devraient. Donc il faut toujours garder une adaptation prévisible parce que la protection de l'environnement, elle n'a pas de prix, mais l'emploi non plus. Et donc c'est toujours un jeu très subtil qu'il faut avoir pour permettre l'implantation d'entreprises, parce que sans entreprise, on ne fera rien, et préserver notre environnement. Donc il y a un certain nombre de lois, de textes qui existent, c'est ce qui est appliqué par notre service urbanisme lorsqu'il instruit les demandes d'ailleurs. C'est ce qui nous a d'ailleurs retardé aussi sur Saint-Viturnien pour l'installation de l'entreprise Collet. Mais c'est ce qui peut nous amener à être en grande difficulté à un certain moment, parce que si l'entreprise Collet ne s'installe pas, c'est un approvisionnement qui est perdu pour International Paper, et je rappelle qu'International Paper, c'est quand même 4000 emplois sur place ou induits, donc ce qui serait aussi une catastrophe pour notre territoire. Pour une entreprise qui, en termes de développement durable, est, je dois dire, quand même à un niveau d'exemplarité, où je voudrais que toutes les entreprises de papier, de fabrication de pâte à papier, soient aujourd'hui, y compris sur nos territoires. Donc, c'est un jeu subtil, mais je dois dire que le secrétaire d'État a quand même constaté qu'on était sur un territoire qui était aujourd'hui en fort développement dans des périodes qui ne sont pas faciles. Je vous propose, est-ce qu'il y a des questions sur ATA Solutions? Donc, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? Adopté à l'unanimité. On poursuit avec le lotissement Les Rochers.
Je voulais dire, Pierre, que je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. On a de la chance d'avoir un territoire dynamique. Et notre territoire dynamique, il faut qu'il le reste. Et on a besoin de notre entreprise, parce qu'on a besoin des emplois. Et pour avoir un territoire dynamique, on ne peut pas faire sans les entreprises. Et on a vraiment de la chance d'avoir ces entreprises-là chez nous. Voilà. Donc, je poursuis pas concernant... D'accord, ok. Alors, la loi Elan du 23 novembre 2018 impose aux vendeurs de terrains à bâtir situés sur une zone à aléas moyens et forts concernant les risques de mouvement de terrain à réaliser des études géotechniques préalables de type G1 pour toute cession à compter du 1er octobre 2020. Considérant que la parcelle AR127 à Saillat-sur-Vienne est identifiée donc sur le site géorisque du gouvernement comme présentant un aléa moyen et fort concernant les risques de mouvement de terrain, on a fait un devis à l'entreprise Ginger GBTP pour 1020 euros TTC. Et il convient donc de rajouter au prix de la parcelle ce montant-là de 120 euros qui concerne donc l'étude géotechnique. Je tiens à préciser que les acquéreurs ont été prévenus de l'augmentation de ce prix-là par le constructeur et qu'ils sont complètement d'accord. Voilà.
Je remercie le rapporteur. Alors, je précise que ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y ait une usine à Saillat. Hein. Le risque technologique, c'est simplement une carte au niveau national qui est sortie et qui précise des zones, zone 1, zone 2, zone 3, sur lesquelles il y a lieu de faire ce type d'études. Est-ce qu'il y a des questions ? Monsieur Coindeau.
Oui, c'est toujours délicat de se prononcer sur une telle délibération censée être un terrain à risque. Quel a été le résultat de l'étude géotechnique ? Parce que ce serait dommage de vendre une parcelle, probablement pour construire, si dans quelques temps, la maison doit disparaître dans quelques mouvements de terrain. Est-ce qu'on peut avoir des précisions quand même sur le résultat de l'étude géorisque, là ?
C'est géotechnique. Alors, je précise les choses. C'est que l'État a défini des zones. Les études doivent permettre de vérifier si ces zones correspondent bien à ce qui a été défini au niveau de l'État, mais n'ont aucune contrainte par rapport au particulier qui va acheter ou pas. C'est un petit peu comme quand vous achetez votre maison et que vous avez une étude plomb, un diagnostic énergétique. Qu'est-ce qu'il y a maintenant chez nous, je crois que c'est à peu près... Il doit y avoir une autre étude qui est demandée. Ça ne vous empêche pas d'acheter. Ce n'est pas pour ça que vous allez vous électrocuter quand vous allez appuyer sur le bouton. Sauf qu'on vous dira que votre maison ne correspond pas aux normes d'aujourd'hui en termes d'électricité, parce que vous n'avez peut-être pas le bouton adapté. Enfin, voilà. Là, cette étude, elle consiste simplement à dire... S'il y a construction sur ce terrain, il faut peut-être faire soit des pieux, soit vous pouvez faire une chape flottante, soit vous pouvez faire... Voilà. C'est simplement pour déterminer, pour dire au constructeur, pour que le propriétaire ait un élément qui lui permette de dire au constructeur, moi je veux tel type de dalle, de sous-sol. Voilà. C'est uniquement pour cette raison qu'il y a ce type d'étude-là. En gros, c'est pour éviter le recours aux assurances par la suite. Monsieur Granet.
Oui, Président, merci. Non, mais vous venez de répondre en partie, enfin de dire en partie ce que je souhaitais dire. Je voudrais simplement rassurer notre collègue. C'est même plutôt rassurant qu'il y ait ce type d'étude préalable qui est faite. Tout ça vient des catastrophes que nous n'avons pas su gérer et que nous n'avions pas su prévenir il y a des années, notamment Seveso. Et donc, il se trouve qu'effectivement, il y a des plans comme ça. L'équivalent, c'est le plan de prévention des risques d'inondation, par exemple. C'est simplement identifier un niveau de contrainte qu'on a en plus parce qu'on est sur ce type de terrain-là. C'est tout. Maintenant, le terrain, au moment où on parle, il est peut-être en train de s'écrouler. Je n'ai pas eu d'infos de France Inter, mais peut-être que ça n'interviendra que dans 2000 ans. Donc, effectivement, il y a un risque certain. On a pris une météorite sur le coin de la figure il y a 24 millions d'années. Ça peut se reproduire, mais combien ? 200 millions d'années. Vous voyez, on est peut-être à l'aube d'une nouvelle météorite. La peur n'évite pas le danger.
Bien. Donc, avant que la prochaine ne tombe, je vous propose de passer au vote, qu'on l'ait voté avant au moins. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Des votes contre, donc adoptés à l'unanimité. Nous poursuivons avec la gestion de la politique de l'eau. Alors, je vais vous le faire, ça. Donc, la première, c'est une convention qu'on a l'habitude de passer régulièrement avec la société qui gère Alvéol pour le traitement des lixivia du CIDED. Donc, puisque la société Suez, donc qui effectue le traitement ponctuel des lixivia du centre Alvéol, pourrait transférer à certains moments, mais ça ce n'est que lorsque vous avez sur le site d'Alvéol un dépassement, c'est-à-dire parce qu'on a un bassin de, pour vous expliquer, on a un bassin de décantation sur Alvéol avec un traitement d'élixivia, mais lorsqu'il y a à certains moments de fortes pluies, pour éviter un débordement de ce bassin, les élixivia sont repris et jusqu'à présent étaient amenés à notre station d'épuration pour être traités, donc ils ne reviennent pas dans un ruisseau, justement, et qu'il soit traité. Donc, cette convention se déroulait auparavant avec la ville de Saint-Junien, mais comme il y a eu un transfert auprès de la communauté de communes, c'est la même convention, mais qu'on repasse à la communauté de communes. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité ? C'est la même chose, dès que je vais l'avoir trouvé, pour la société Euro PLV, non mais c'est la délibération que je cherchais, voilà, merci. Donc, c'est une convention qui a été proposée et signée depuis 2019 avec la commune de Saint-Junien afin d'assurer le traitement des eaux usées de la société Euro PLV. Donc, bon, jusqu'à présent, on n'a pas trouvé de difficultés particulières dans le traitement de ces eaux usées avec des analyses qui sont effectuées régulièrement. En sachant que la société Euro PLV doit étudier la possibilité de réaliser son traitement sur place, ce qu'elle n'a pas encore fait, mais bon, c'est assez récent et c'est des processus qui sont assez longs. Est-ce qu'il y a des questions, des abstentions, des votes contre ? Adopté à l'unanimité. Nous passons au développement touristique, la réserve naturelle nationale. Alors, on avait déjà passé les délibérations, mais on est obligé de les repasser.
Oui, voilà. Donc, je vais faire très rapide. Hein. Je ne vais pas reprendre les deux délibérations, puisqu'on les a déjà évoquées lors du conseil du 28 janvier dernier. C'est juste on prend deux nouvelles délibérations par rapport à des montants qui ont été modifiés sur les notifications apportées donc, par l'État et par l'Europe pour le fonds FEDER. Voilà, on a un petit ajustement. Donc, vous avez pu voir au niveau des tableaux, donc, notamment si vous prenez la page 51 sur la deuxième délibération, vous voyez qu'au niveau de l'équilibre du budget, on est passé de 68 000 à 45 000 au niveau des salaires et charges, donc pour un total de 83 000 euros au niveau des charges. Et donc, au niveau de la subvention, on passe de 57 120 à 37 800, 15 000 en subvention d'État. Et donc, au niveau de la communauté de communes, on passe de 10 880 à 7 200. Un total donc de 60 000 donc contre 83 000 au préalable. Donc voilà, c'est juste un jeu d'écriture pour repasser ces délibérations pour redemander donc les subventions auprès de l'État et de l'Europe donc pour les financements au niveau de la réserve.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité? On poursuit. Tu as fait les deux du coup? Bon, allez, donc les deux, pas de problème, pas d'abstention, pas de vote contre. Ok, oui, de toute façon, elles se suivent. Hein, mais bon. Nous passons à l'animation du territoire et l'action culturelle, les subventions allouées aux associations. Monsieur Granet.
Oui, il y a une demande de parole.
Pardon.
Oui, pardon, excusez-moi. Étant représentante d'une association qui perçoit une subvention pour les interventions sur le temps scolaire, est-ce que vous souhaitez que je sorte ou je ne prends pas part?
Non, mais simplement, oui, mais tu participeras pas au vote.
Il faut que tu sortes et que tu ailles au moins à 33,50 m du bâtiment, s'il te plaît.
Il en sera de même pour moi en tant que président du CIRIR, hein, du coup.
Très bien.
Bien, merci président, mes chers collègues. Oui, alors là aussi, une subvention qu'on a l'habitude de passer chaque année. Notre communauté de communes apporte son concours financier à de très nombreuses associations qui participent à l'animation sportive, économique, sociale et culturelle de tout le territoire. Alors, si les subventions de l'année passée ont tenu compte de l'incertitude liée à la crise sanitaire, notre intercommunalité a tout de même souhaité maintenir un haut niveau de soutien au monde associatif en 2020. Et là, je souhaiterais vraiment m'arrêter deux secondes là-dessus. Il est notable que la collectivité, et même je sais que l'ensemble des collectivités composant la Porte Océane du Limousin, ont eu le même intérêt pour leur association locale et pour nos associations qui font vivre nos territoires. Et je voudrais aussi à cet égard saluer les communes et saluer la communauté de communes pour ce geste de solidarité à l'égard de toutes nos associations, qu'elles soient culturelles, sportives ou d'entraide. Donc, afin de prévoir les lignes budgétaires qui devront être inscrites au budget 2021, il convient donc de définir la politique globale de soutien de l'intercommunalité au milieu associatif. Cela permettra également, avant le vote du budget, qui n'interviendra qu'en avril, de procéder d'ores et déjà au versement de certaines d'entre elles de manière anticipée, dès lors qu'elles ne dépassent pas, bien sûr, le montant des crédits engagés en 2020. Donc, vous avez le tableau ci-après avec les montants qui seront alloués aux associations. Et pour conclure, j'ajouterai simplement que nous avons entamé un travail de relecture un petit peu de cette politique d'aide que nous avons auprès de nos associations. Cela pour être plus efficient encore. Donc, avec un certain nombre d'entre elles, nous allons signer des conventions d'objectifs afin que toutes les choses soient très claires et très évidentes. Et en regard des statuts de la collectivité qui est la nôtre, nous allons regarder ce que nous pouvons subventionner, ce que nous ne pouvons pas subventionner. La règle est très claire, car je vous rappelle que nous travaillons selon des règles très définies et que nous sommes contrôlés par la Cour régionale des comptes. Donc il nous faut à cet égard être extrêmement rigoureux. Ce travail a été entamé avec Guillaume, notre directeur de cabinet, et avec mon collègue et ami Didier, ici présent. Donc voilà, mes chers collègues, ce que je pouvais vous en dire ce soir.
Merci, Monsieur Gerbault.
Oui, juste pour vous informer, Monsieur le Président, que je ne prendrai pas part au vote non plus. Je viens de voir que mon association est dans la liste.
Vas-y. Monsieur Favreau.
Oui, je viens de voir pour les amis de la bibliothèque, là, il n'y a que 800 euros, alors qu'habituellement, c'était 1 500 euros. Et l'année dernière, il n'avait été versé que 800 euros seulement à cause du Covid. Donc, voilà.
Président, si vous permettez.
Oui.
Oui, c'est pour ça, Alain, que nous avons repris les montants de l'année dernière, puisque, eu égard à l'incertitude sanitaire qui pèse sur le pays, nous n'avons pas voulu diminuer les subventions, mais à minima, nous avons repris au moins les montants alloués l'an passé. À moins que, et certaines associations nous ont fait des demandes beaucoup plus basses que ce qu'elles nous avaient fait les années précédentes, et nous avons évidemment retenu le montant de la demande de cette année. Mais pour les amis de la bibliothèque, sois rassurés, nous avons donné le montant de l'année dernière, et afin que les choses soient limpides, il est bien évident que si une association, au vu d'une amélioration de la crise sanitaire que nous souhaitons tous, avait un projet particulier, nous pourrions toujours regarder ce projet particulier, le cas échéant, en subvention exceptionnelle, dès lors que le projet sera monté, financé, etc., etc. Donc là, mais pour l'instant, on a souhaité, par mesure de solidarité à l'égard de nos associations, rester à minima sur ce qu'on a donné l'année dernière.
Oui, mais l'année dernière, la subvention avait été coupée en deux. Du fait que, comme on ne savait pas si les associations pourraient tenir
leur manifestation.
Leur organisation. Et nous, elle avait été faite juste avant. Elle avait été faite le 8 mars. Donc, pourquoi le reste de la subvention n'a pas été versé?
choses que je viens d'expliquer. Alors oui, le cas échéant, la manifestation s'est tenue juste avant la période de confinement et juste avant le gel de toute activité qui a duré et qui dure encore d'ailleurs. Mais cependant, la politique a été prise. Je n'étais pas autour de la table l'an passé lorsque cela a été fait. Cependant, j'imagine, les subventions n'ont pas été versées en totalité parce que les activités n'ont pas eu lieu, mais les subventions ont été quand même versées pour une certaine part à minima, ce qui est le cas de votre association. Malheureusement, ça tombe sur vous et vous avez organisé la manifestation juste avant le confinement. Ça, c'est ballot. La prochaine fois, faites-la après. Et comme ça, il n'y aura pas de souci. Non, alors, trêve de plaisanterie. Mais pour cette année, voilà les montants qui vous sont proposés. Et je répète, Alain, que s'il y avait un besoin particulier, nous avons convenu avec Didier et Guillaume que les choses pourraient être vues au cas par cas en fonction des projets présentés en subvention exceptionnelle. Donc, pas d'affolement à cet égard. Nous sommes là pour soutenir nos associations. Nous les soutiendrons.
Alors, juste un point. Là, effectivement, j'ai bien compris que ça c'était que votre organisation s'est passée avant le Covid l'an dernier. Pas de problème. Simplement, et je ne veux pas dédouaner mes collègues, mais ils ont reconstitué les dossiers de demande de subvention. Donc, comme ils sont partis à zéro, puisque certains n'ont pas cru bon de laisser les documents pour qu'on puisse travailler, on est reparti à zéro. Et donc, repartant de zéro, ils sont partis sur l'élément budgétaire qu'ils avaient sur le budget. Donc, c'est pas, ils ne pouvaient pas deviner en clair. Donc, on va regarder. S'il y a un souci budgétaire pour l'association, on n'a jamais laissé une association dans le besoin. On est un petit peu comme au conseil départemental ou à la région. On étudie avec beaucoup d'attention tout cela. Donc, on reviendra vers toi pour faire le point avec eux, mais je vous dis, on n'avait pas de dossier, donc on a reconstitué les dossiers. Voilà.
Parce qu'il y a souci budgétaire.
Oui, ben on va. Donc je t'invite à aller voir Thierry et Didier, et ils regarderont, et on a toujours la possibilité, puisqu'on n'est pas encore au vote du budget, on a toujours au moment du vote du budget la possibilité de modifier un montant de subvention. Mais il n'y a pas de problème, on regardera ce qui peut être fait.
D'ailleurs, Président, si vous permettez, à cet égard, et juste pour compléter les propos du Président à l'instant, effectivement, nous, le travail dont je vous parlais tout à l'heure, que nous venons d'engager avec Didier et Guillaume, c'est un travail que, évidemment, nous vous présenterons, parce qu'il va s'agir quand même de déterminer et d'expliquer aux gens les critères d'attribution de subventions. Et tout ça va être fait, évidemment, dans la transparence. Nous sommes en train de le faire. C'est un petit peu fastidieux, mais nous sommes en train de le réaliser. Et pour là, on part aussi un peu, et le Président vient de le dire, sur des bases qui nous étaient un petit peu inconnues là, et dans la situation que vous connaissez. Mais pour les subventions 2022, les règles auront été expliquées, seront transparentes et vous auront été communiquées en amont.
Oui, je voulais dire simplement que les associations, bah nous on procédera de la même manière sur notre commune, garde une somme en subvention exceptionnelle au cas où il y ait besoin d'ajuster. On partira sur les mêmes bases. La particularité aussi, c'est que vous le savez, c'était un minimum de faire ça, d'autant plus que les associations n'ont pas de recettes. Donc, impossibilité d'organiser des repas, d'organiser les manifestations, compte tenu que les établissements recevant du public sont fermés. Donc, il n'y a aucune possibilité. Donc, c'était effectivement un minimum. Mais pour revenir à ce que disait Alain, que ce soit dans une commune ou à la Comcom, il y a possibilité d'ajuster quand une association a un besoin spécifique.
En nous justifiant le besoin. Quand même. La Comcom n'est pas une banque, je le rappelle. Avant de passer au vote, je rappelle que Nadège Coucou, Fabien Brias, Édouard Coquillot, Alex Gerbeau.
Je ne prendrai pas part au vote, je fais partie des amis de la bibliothèque. Non.
Ah non, c'était pas dans le. Tous ceux
si
qui
on
sont.
On n'est pas dans le bureau, ça marche pas.
Du moment que vous n'êtes pas dans les bureaux, ça pose pas de problème.
Bon,
je recommence. Nadège Coucou, Fabien Brias, Édouard Coquillot, Alex Gerbeau. Pas de souci. Donc, en dehors de ces quatre personnes, est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? Donc, adopté à l'unanimité des votants. Vous avez dans vos dossiers l'ensemble des informations, des décisions pardon, qui ont été prises depuis le dernier conseil communautaire. Et l'ordre du jour étant épuisé, je lève la séance. Je vous remercie.